déjà posé la question en arrivant, il y en a qui sont arrivés entre temps. Est-ce que vous allez toujours bien?
Oui.
Génial. En fait, la verbe, cette semaine, on va parler ensemble. Il m'a dit, Sylvain, mon thème cette semaine, ce sera la joie. Je lui ai dit, ça tombe bien, moi, ce sera la souffrance. Bon, je vais voir comment faire la transition entre les deux. Et c'est vrai qu'on a un Dieu qui est là pour. On connaît les joies, on connaît des moments super, par exemple, bientôt un mariage, ou peut-être d'autres éléments de notre vie, peut-être avoir réussi le bac, peut-être avoir réussi le brevet des collèges, si on a beaucoup de bien, j'en profite. Mais aussi, on a un Dieu qui est là, on ne sait pas du tout, des moments parfois beaucoup tiraillés, on ne sait pas du tout comment on va s'en sortir. Et vous savez, je pense que tous ces amis-là, mais souvent on entend dire que la foi et la souffrance sont incompatibles. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Comment est-ce qu'on peut avoir la foi quand ils ont des souffrances? Et pourtant, dans la Bible, il est souvent question de la souffrance. La souffrance, elle prend plusieurs dimensions. Il y a la dimension physique, morale, spirituelle et parfois aussi sociale. Parce qu'on a des difficultés avec des personnes. Et aujourd'hui, nous allons découvrir le roi David au bout de sa vie. Jeune, là, je pense que vous avez une âme au bout de sa vie. On ne sait plus comment s'en sortir, on va le voir. On va voir qu'il expérimente justement toutes les dimensions de la souffrance physique. Je suis sans force, je m'épuise à force de gémir. Morale, je tremble de tous mes os. Mes yeux sont usés par le chagrin social. Tout ce qui me perce. Spirituel, mon âme est toute troublée. Est-ce que ma vie vaut encore la peine d'être vécue dans cette situation? Mes amis, nous ne sommes pas seuls à expérimenter des sentiments qui sont très sombres, ces sentiments qui accompagnent la souffrance lorsque nous vivons. Nous pouvons trouver dans la Bible des ressources pour ne pas nous sentir seuls, savoir aussi que ce Dieu qui a la vie compris, des miracles dans la vie des personnes qui ont cru en lui, même que nous avons aujourd'hui. Et je prends beaucoup de précautions, je ne vais pas vous dire, alors voilà, c'est facile, il suffit de se dire, bah, tout va bien se passer. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Quand on est dans la souffrance, lorsqu'on connaît des périodes difficiles, personne ne veut. Je ne vis pas tous les mêmes situations, même les mêmes situations, on ne vit pas de la même façon. Nous pouvons trouver, pas dans ce que moi je vais dire, dans ce que la Bible dit, des ressources pour nous encourager. Et avoir la force suffisante pour aller d'avant. Et continuer de mettre notre espoir, notre confiance en Dieu. Et David, en fait, dans cette période difficile de sa vie, il parle de trouble, on a délivrance, puis finalement la justice de Dieu à l'intérieur. Et ce que je voudrais que vous reteniez ce matin, c'est que la bonté de Dieu s'existe, même dans la souffrance. Même dans la souffrance, Dieu est bon. Et on va prendre le psaume 6, si vous avez votre Bible. Sinon, je ne sais pas si ça a été fait entre temps pour l'afficher, mais sinon, ce n'est pas grave. Donc, c'est le psaume 6, et je vais le lire. C'est au milieu de votre livre, c'est une Bible comme la mienne. C'est la page 370. Vous pouvez le garder d'ailleurs ouvert. Ça, ça vous permettra de suivre, de voir le parallèle entre ce que je dis et ce qu'il y a dans la Bible. Ce n'est pas juste pour le dire. Donc, psaume 6, au chef du cœur, instrument à cordes sur harpe, à huit cordes, psaume de David. Ces informations font partie du psaume. C'est aussi inspiré par Dieu. Donc, s'il y a des musiciens parmi nous, vous pouvez faire un chant. Parce que c'était fait pour chanter. C'est pour faire vraiment sortir toutes les émotions de notre cœur. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, ne me corrige pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car je tremble de tous mes os. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand me traiteras-tu ainsi? Reviens, Éternel, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta bonté. Car dans la mort, on n'évoque plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, mon lit est trempé de mes larmes. Mes mines. Qui me persécutent et affaiblissent. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice.
car l'Éternel entend mes pleurs. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont remplis de confusion et d'effroi. Ils reculent soudain vers le monde.
Et dans ce psaume, David commence par une période de trouble.
Comment il commence? Comment commence David dans ce psaume? Il dit, Éternel, tu connais ma souffrance. Éternel, tu sais que Gertrude est tellement méchante avec moi.
Non, c'est ça. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me corrige pas dans ta fureur. David commence à reconnaître que c'est ses actions et ses attitudes qui ne sont pas toujours les bonnes. Dieu, David sait qu'il est pécheur, c'est-à-dire qu'il fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu, qu'il désobéit à Dieu, il est rebelle à Dieu. Et c'est aussi une chose importante que nous oublions souvent. Le péché nécessite le châtiment de Dieu. David ne tourne pas autour du pot, il vient directement au problème majeur de l'homme. Son problème majeur, notre problème majeur, ton problème majeur, mon problème majeur, le péché. A-t-on des problèmes, des maladies, des péchés?
À nous repentir, nous confesser, nous mettre à genoux devant Dieu.
C'est ça,
comme David dit. Ne punis pas dans ta foi.
Je me soumets à toi, je vais tout donner. Alors non, ce n'est pas forcément à cause d'un péché. Alors on va prendre l'exemple de Job tout à l'heure, on va parler. Non, ce n'est pas forcément à cause de ça. Mais parfois, quand on est des périodes de maladie, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des domaines de ma vie qui sont en opposition à Dieu? Vous pouvez par exemple lire l'épître de Jacques, par exemple, avant la lecture de l'huile, on propose d'abord de pouvoir se repentir, de faire cette introspection, de demander à Dieu de nous sonder au plus profond du monde, pour voir si c'est une chose qui nous plaît.
Nous avons besoin de trouver le pardon et la grâce auprès de Dieu. C'est un peu inévitable que Dieu fait de nous sortir de cette fosse. La souffrance est parfois nécessaire pour arriver justement à cette question fondamentale. Et David, il continue et il dit en quelque sorte, « Et toi, Dieu, où étais-tu ?» Pour certains d'entre nous, on a pu vivre des expériences comme cela, où on a aussi dit à Dieu, « Où étais-tu ?» Lorsque j'ai connu la maladie, lorsque la douleur m'empêchait de faire le moindre mouvement, lorsque j'ai perdu mon enfant, que j'ai dû l'enterrer moi-même, lorsque l'on m'a trahi, traité injustement et privé des droits, auquel j'avais droit, lorsque mes pensées ne trouvent aucun repos et que ça résonne dans ma tête, que je ne sais plus comment faire, que je ne trouve pas de repos, lorsque je crie de désespoir, que tu réponds. Où étais-tu, Dieu? Jusqu'à quand est-ce que je vais rester dans cette situation? C'est vrai que pour avoir des attitudes assez diverses par rapport à ça, aussi par rapport à peut-être à mes amis qui ont encore placé leur confiance en Jésus, par exemple, pour quelqu'un qui ne croit pas en l'existence d'un Dieu, la souffrance trouve sa finalité en quelque sorte dans la disparition de ce qui est faible, c'est un équilibre naturel qui se fait, afin de laisser de la place à ceux qui sont forts et en bonne santé, pas qu'ils contaminent les autres. Cette vision est orientée vers l'efficacité, vers une évolution biologique autonome, sans la conduite d'un être supérieur, sans la conduite de Dieu. Et alors, dans ce cas-là, la souffrance et la mort sont nécessaires pour que la vie perdure. Dans cette philosophie, il n'y a pas de place pour Dieu. Et pourtant, combien de fois on entend des personnes qui peuvent tenir ce discours-là? S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas de souffrance. Est-ce qu'on l'a déjà entendu, cela? Est-ce que l'on peut être moi-même? Est-ce que je l'ai déjà dit? Pour autant, devant toute l'infinité complexité de la vie, aussi la fragilité que l'on observe dans la nature, quand on regarde toute la complexité de notre corps, simplement d'une feuille d'arbre qui est capable de faire la photosynthèse. Est-ce qu'on entend de temps en temps qu'il fonctionne par bien vu? C'est pas équilibré, n'est-ce pas? C'est ce qui est surprenant, c'est que tout le monde considère la souffrance comme élaborée. La souffrance. Pour autant, sans faire de raccourci, elle est sans doute le seul point commun avec tous les êtres humains de la terre. D'un moment à l'autre, on est tous confrontés. La souffrance, peu importe si on est riche, si on est pauvre, peu importe où on est, d'un moment à l'autre, on est confronté à la souffrance. Est-ce que ça serait pas un panneau indicateur pour nous amener à réfléchir en nous disant, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de meilleur? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de meilleur? Deuxième point de vue, peut-être aussi de certains de nos amis, on croit à une puissance supérieure, on parle de nos amis musulmans, ou bouddhistes, ou agnostiques. Il s'agit d'une puissance qui est là, qui dirige les choses. On ne peut pas la questionner. Et encore moins l'interpeller vigoureusement, comme l'a fait David, avec des cris et des pleurs, et dire « Et où étais-tu? J'en veux plus, interviens !» Parce que dans cette philosophie, c'est une puissance qui n'est pas relationnelle, qui ne souhaite pas nous rejoindre. Et ne se soucie pas des hommes, ne se soucie pas des hommes. Qui vient le Dieu de David, le Dieu de la Bible, qui se présente comme un Père qui est aimant, que nous pouvons interpeller, appeler à l'aide, à qui nous pouvons crier jusqu'à quand? Vous ne trouverez dans aucune religion un Dieu comme celui de la Bible qui nous rejoint dans nos souffrances. Vous savez, l'une des pires souffrances que l'on peut connaître, c'est la souffrance de l'âme. Il y a souvent des personnes qui se trouvent en fin de vie, peuvent faire des souffrances vraiment intenses et terribles. Et pour autant, leur priorité, souvent, c'est de trouver le repos de leur âme. C'est de demander pardon à Dieu, de demander pardon à des personnes, confesser des actions inavouables qu'ils ont gardées pendant des décennies, bien que pour eux, parce qu'ils avaient peur des conséquences. Et tout en ces derniers instants, c'est de ça qui est préoccupé. C'est pas forcément les souffrances. C'est de trouver le repos de l'âme. Et c'est là que Dieu intervient. Peut-être tu peux te dire ce matin, en fait, je suis pire des gars, je suis pire des femmes. Hein, Dieu ne peut pas me pardonner, personne ne peut me pardonner. Non, c'est Dieu. Il a pardonné, comme on l'a entendu avant, l'apôtre Paul. Il a séparé des familles, il a torturé, il a été complice de meurtre. Pour autant, Dieu l'avait le chef. Il en a même fait un de ses serviteurs. Une des personnes qui a écrit le plus de pages de votre livre. Dieu peut tout changer. Il peut pardonner ce qui est impardonnable. Venez à vous. Ne laissez pas passer. Vous trouverez du repos. Vous savez, lorsque vous venez une souffrance intense, les secondes, elles deviennent des heures. Parce qu'on a mal quelque part, on ne peut pas se passer de penser. Donc, besoin aussi de nous adresser à la personne qui a tout pouvoir sur les événements. Imaginez quelqu'un qui vous marche sur la main. Qu'est-ce que vous faites? Donc, sur vous, vous lui dites que vous avez la main. Et en fait, c'est ce Dieu qui a vraiment tout pouvoir et peut pousser cette personne qui vous marche sur la main pour vous libérer de cette entrée. Et à l'intérieur de chaque homme, il y a cette connaissance que malgré une rébellion qui est contre Dieu, contre la souffrance et la mort, tout le monde a cette rébellion contre la souffrance et la mort, parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. Et peu importe si on est chrétien ou pas chrétien, tout le monde est en rébellion contre la souffrance et la mort. Nous savons que la souffrance ne devrait pas exister. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous, et pourtant la souffrance, elle nous entoure. Est-ce que David a reçu des réponses à ses pourquoi et c'est jusque quand Dieu était, où étais-tu? Non, je ne pense pas. Et on courage d'avouer aussi, en tant que chrétien, que nous n'avons pas réponse à tous les pourquoi. Nous n'avons pas la réponse à la raison de la souffrance. Et avant, je parlais de Job, c'est quelqu'un qui Dieu a utilisé, mais qui a un livre, je crois, le livre de Job, dans l'Ancien Testament. Et en fait, il a aussi connu beaucoup de souffrances, mais n'a jamais su lui-même la raison de ses souffrances. Nous, nous le savons dès le début, lui ne le sera pas. Alors oui, parfois, comme par exemple l'exemple de Job, nous pouvons souffrir pour être un témoignage à la gloire de Dieu. Nous pouvons souffrir pour être un témoignage pour que les personnes rencontrent Dieu et qu'ils voient que en Dieu, nous avons un refuge qui est sûr dans les circonstances. Nous pouvons encourager d'autres aussi à grandir dans la foi, voyant que Dieu veille à tous les aspects de nos vies. Mais comme David l'a introduit directement dans sa première phrase, le péché est encore en soi. Vous prenez bien ça. Tant que le péché demeure, la souffrance et la mort demeurent. Tant que le péché est là, la souffrance et la mort sont là. Autant décidé par Dieu et par son jugement, Dieu anéantira le péché et la souffrance. Et aujourd'hui, Dieu guérit les malades, Dieu console, Dieu prend soin de ceux qui souffrent. Nous continuons de voir l'influence du péché par nos vies et nous continuons de le crier. Jusqu'à quand, Dieu, dois-je vivre cela? Et mes amis, dans tout cela, c'est vers ça qu'il faut faire. Le meilleur est dans moi. Dieu donne une promesse sûre et certaine qu'à un moment, il sifflera la fin de ce match. Souffrance, la mort, ça termine. Le péché n'aura plus d'incidence dans nos vies, dans le monde. Et toutefois, aujourd'hui, on connaît encore des souffrances, on connaît aussi des incompréhensions. Et dans ces temps-là, nous pouvons nous adresser à Dieu. Nous pouvons crier à Dieu, nous pouvons pleurer à Dieu. Nous pouvons déverser toutes nos émotions sur lui. Lui les entend mieux que même nos meilleurs amis, même nos conjoints. Nous pouvons crier à Dieu. Dire à Dieu notre incompréhension, c'est confesser qu'il y a un Dieu qui a tout compris. Dire à Dieu notre incompréhension, c'est dire qu'il y a un Dieu. Aussi, il y a ce temps où David attend la délivrance, lorsque nous connaissons la souffrance et l'insatisfaction. Souvent, je ne sais pas vous, mais on adopte souvent deux positions. Il y en a une qui consiste à vouloir changer les circonstances, changer les personnes. Alors, c'est souvent des réflexions comme ça qui nous travaillent. Il faut que je change de travail. J'en ai marre. Il faut que je change de voiture. Mais vous le passez vite. Il faut que je change de club de sport. Ils ne sont pas assez doués, les entraîneurs. Il faut que je change de conjoint, je ne supporte plus. Il faut que je change d'église, les gens n'aiment pas assez. Et quand on a ces sentiments qui viennent en nous, et ça traverse chacun de nous, notre esprit, c'est qu'on a toujours l'impression que le problème extérieur, on oublie que le péché est aussi en nous. Ou bien que nous oublions sur nous-mêmes, et là on s'endurcit. On devient fataliste, il fallait que ça arrive et je souffre. Et parfois, ça, on peut aussi être dans cette période, en fait, on s'apitoie sur nous-mêmes, on peut même y trouver une certaine satisfaction. C'est vraiment un cercle qui nous détruit, c'est la satisfaction dans la douleur. Donc pour certains, je dois rester seul dans mon coin, nous mettre en retrait de tous. Mais que fait David? Il s'adresse directement à Dieu. Dès le premier verset, il trouve en Dieu son confident, celui qui le connaît, celui qui peut le soutenir, celui qui est son refuge, celui qui est son médecin, celui qui est son libérateur. Reviens à l'Éternel, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta bonté. Dans ce sens, vous pourrez être entouré par des personnes qui nous aiment et pourtant connaître une profonde solitude. Même la présence de nos familles, de nos amis, savoir que Dieu est là. C'est plus palpable. On peut avoir quelqu'un qui nous tient la main sur notre vie. Il est plus loin. C'est ça. Quand nous connaissons des difficultés, mes amis, nous ne nous enfermons pas dans notre carrière. Entre les deux, c'est les pensées sombres. Nous pouvons aussi dire à Dieu, reviens à l'Éternel, délivre-moi, renouvelle mes pensées, rafraîchis-moi. Nous pouvons solliciter la présence et le réconfort, la prière de nos frères et sœurs. Ne vous isolez pas. Ne vous isolez pas dans ces temps. Vous savez, au point de la mort, David supplie Dieu d'intervenir. Dieu le fera. Est-ce que David est gentil? Non. Est-ce qu'il le fera parce que David a fait des bonnes actions? Non. Il n'y a pas de. La Bible elle dit en Romains 3, verset 22, il dit, il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés d'abord. Tout le monde, dès la naissance, parce que tous sont concernés par le péché. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, un cadeau immérité. par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. La libération se trouve en Jésus-Christ. Vous trouvez plein de chapitres. La libération vient de Jésus. Pas de ce qu'on aura fait, par le moyen qu'on aura pu prendre, mais c'est d'oublier les choses. Dieu est bon. Sa grâce est pour nous surabondante. Dieu s'opère, il est bon parce qu'il a compassion de nous, mais pour cela, il peut se tourner vers nous. On peut se plaindre de beaucoup de choses, mais si on se tourne vers Dieu, on restera toujours. Un descendant très célèbre de David, laisse deviner qui c'est après, a prononcé ces mêmes paroles. Elle dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Il a dit ça. Jésus-Christ. Il a dit ça un petit peu avant de monter sur la croix. Et il a dit qu'en fait, quand il montera sur cette croix où il va être torturé, il va être mis dans une position honteuse, ça sera pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas la position dans laquelle on se trouve qui nous donne notre identité, c'est le fait de gloire à tout, peu importe la situation dans laquelle on est. Et il continue. Et il dit, maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Cela en Jean 12, 27. Mon âme est triste à mourir, mon âme est troublée. Et Jésus, devant ce moment critique, ce moment de grande souffrance qui fait venir, un moment qui est critique pour l'histoire de l'humanité, un moment qui est le plus important pour toi et pour moi. Il est venu pour soi. Manifester la gloire de Dieu et sauver l'humanité. Qui peut entendre cette phrase et considérer que Dieu serait insensible à nos souffrances? Jésus a connu la souffrance, les trahisons, le rejet, il a été battu, il a été abandonné par les personnes les plus proches de lui. Dieu le Père a vu Dieu le Fils qui a aimé de toute éternité. Imaginez, vous avez vécu toute une éternité avec quelqu'un, vous l'aimez et vous le voyez souffrir. Imaginez un père qui voit son enfant souffrir, battu devant lui, revêtu de nos péchés, toutes les immondices. Ça a été versé sur lui, toute notre culpabilité, toute notre honte, tout ce qu'on a pu penser, faire et dire, tout a été déversé sur lui. Puis enfin, il est mort. Jésus sait que ça. Jésus sait que ce que ça représente, tout le poids de la colère de Dieu qui nous est destiné, toute la honte qui est liée à nos mauvaises actions, tout ce qu'on a pu penser. Jésus est innocent et il porte ce fardeau qui est énorme, qui est titanesque. Dieu est au plus près de ce qui se passe. Il vous comprend. Il n'y a pas de douleur que Jésus ait refusé de souffrir pour vous et pour moi. Et aujourd'hui encore, Dieu souffre avec nous, connaît nos souffrances, connaît le fait d'aimer ceux qui continuent de nous rejeter, d'être en rébellion contre lui. Et jusqu'à quand? Ça tourne dans la boucle de David, jusqu'à quand? Et il est usé par la souffrance, le chagrin, il commence à entrevoir la possibilité que sa dernière heure est venue, qu'il va mourir. Ceux qui le persécutent ne lui laissent pas de répit. Chaque jour, il pousse David un peu plus dans le four du tourment moral. Peut-être parmi nous, il y a des personnes qui connaissent ça aussi. Peut-être que ce soit au lycée, au collège ou à l'école, on vous embête tout le temps. On vous dit « t'es nul, tu ne sers à rien ». Peut-être des collègues vous disent « mais en fait, tu fais toujours mal les choses ». Ou peut-être même quelqu'un de votre famille vous dit « en fait, c'est toujours trop cuit ce que tu fais, tu ne sers à rien, tu ne sais même pas cuisiner ». Et là aussi, Dieu, qui connaît ce que c'est le harcèlement. Vous pouvez vous confier en lui. Si vous le souhaitez, vous pouvez en parler avec les anciens. Priez ensemble et aussi demander à Dieu qui est de nous penser quelque bien. D'être qu'il se passe quelque chose qui permet de sortir de cette situation. Et enfin, il y a cette attente de la justice. Alors que l'on ne s'attend plus à rien sinon la mort, c'est alors que l'intervention de Dieu se produit. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice, car l'Éternel entend les pleurs. Un changement de situation vient, il y a tout qui est basculé comme un sablier qu'on retourne. Dieu juge les injustes. Dieu entend les pleurs de ceux qui souffrent. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Dieu entend nos prières, même lorsque nous sommes incapables d'entendre, de voir ou de sentir la présence de Dieu. Dieu entend. Dieu entend tes pleurs. Il entend ta prière aussi lorsque peut-être tu es seul dans ta chambre à genoux. Lorsque tu cries à Dieu, ton ras-le-bol, j'en ai marre, j'en peux plus. Dieu t'entend. Il t'entend quand tu pries pour ton mari qui peut opposer à ta foi ou ta femme qui oppose à ta foi. Lorsque peut-être ton mari ou ton épouse est malade ou un de tes enfants. Lorsque ton patron, ton collègue est exécrable avec toi tous les jours. Lorsque peut-être tes camarades de classe te dénigrent. Lorsque peut-être même tes enfants te rejettent. Lorsque tu pries pour être digne du pays. De ceux qui t'empêchent de vivre une vie normale depuis des années. Mon ami, Dieu t'entend. La justice de Dieu se manifestera un moment ou un autre, sois-en sûr. Mais quoi qu'il arrive, Dieu punira tous les autres. Dans l'évangile de Matthieu, il y a un long discours qu'a fait Jésus, qui s'appelle le sermon sur la montagne. Il nous parle du royaume de Dieu, il nous parle dans ce discours de l'amour de Dieu, il nous parle de la joie et de ce royaume, il nous parle aussi de comment on doit vivre un vie. Un disciple chrétien qui est cohérent avec sa foi, et vous lisez juste quelques extraits. Ça commence comme ça. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Heureux ceux qui reconnaissent que par eux-mêmes, ils n'en s'en sortiront pas. Heureux ceux qui savent qu'ils ne sont pas justifiés parce qu'ils ont plein de connaissances. Car le royaume des cieux leur appartient. Aux personnes qui sont humbles et qui s'attendent à Dieu. Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Dieu consolera ceux. Puis après, il dit, vous avez appris, il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent, ceux qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense même. Puis enfin, Jésus finit ce discours en disant, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Venir peut-être le dimanche et prier, dire Seigneur, Seigneur, sans entrer dans ce royaume. Mais Jésus continue, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Les apparences, ce n'est pas ce que toi regarde Dieu. Il regarde à celui qui est déterminé à lutter contre le péché, à faire la volonté de Dieu dans tous les domaines de sa vie. Malgré les chutes, c'est la volonté de suivre Dieu. Comme un disciple de Jésus-Christ. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Jésus finalise sa grande présentation du royaume des dieux, de Dieu, par cette même phrase que David. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'injustice. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de justice, mais Dieu ne serait pas juste sans jugement. Aujourd'hui, dans son amour, Dieu est patient, c'est un peu comme s'il tenait des bols remplis de sa colère en équilibre dans ses mains, mais il attend. Cette colère, elle est juste, elle est méritée, comme David l'a dit. Mais à un moment, il la déversera sur tous ceux qui ne sont pas réconciliés avec lui. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu souffrent. Dans le monde, les chrétiens sont persécutés. Et beaucoup de nos frères et sœurs, tous les jours, ils crient à Dieu, « Juste à quand? J'en peux plus !» Tellement de frères et sœurs qui disent ça tous les jours. Et Dieu attend. Il les voit en train de souffrir. Et il a vu Jésus qui souffre. Ils attendent la justice de Dieu. Ils attendent son jugement pour qu'il soit accompli. Parce qu'il donne encore du temps. Peut-être à toi qui n'as pas encore fait ce choix d'être réconcilié avec des personnes qui attendent en souffrant. Tu te confies à Dieu, tu te réconcilies avec lui. On a maintenant, c'est vraiment important. Tourne-toi vers Dieu. Confesse que tu es pauvre spirituel. Tu as besoin d'un Dieu qui est grand et d'immense et de la vie qui prend du sens. Ce ne sera pas facile. La vie d'un chrétien, c'est pas facile. C'est la vie qui vaut la peine d'être vécue. Mais sois assuré que tout le temps, c'est le temps. Quand Jésus-Christ reviendra, sa justice sera appliquée. Il va consoler, sécher les larmes de ceux qui souffrent. Et nous donnera cette joie qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. La souffrance sera enlevée. Mais nous pouvons compter sur la porte et la justice de Dieu, quoi qu'il arrive. Et un jour, vous savez, on passera tous par ces temps de souffrance. Ça n'a pas encore été le cas, ça arrivera l'un dans l'autre. Et vous savez, je vais vous choquer. Et l'un des principaux rôles des responsables d'église, ce n'est pas de prier pour vous. Ce n'est pas non plus s'asseoir à vos côtés pour vous consoler. Vous comprenez bien que nous croyons que Dieu guérit surnaturellement. Et dans notre église, nous nous attendons à des guérisons miraculeuses. Pourquoi, comme la Bible l'indique, nous prions pour les malades, nous pratiquons l'onction d'huile, par acte de foi, on s'attend à l'intervention miraculeuse de Dieu. Nous prions que Dieu intervienne pour changer les situations. Comprenez bien aussi que nous voulons être une famille aimante, c'est une des valeurs fortes de notre Église. Nous voulons partager les joies de ceux qui en ont la joie, la tristesse de ceux qui souffrent. Et un jour ou un autre, nous serons tous confrontés à des temps de souffrance dans lesquels nous aurons l'impression d'être seuls, faibles, nous serons dans le trou. Dans le tourment. Et le rôle des enseignants est d'enseigner par la Bible comment vivre ces temps de souffrance. Parfois, la souffrance est tellement intense que l'on ne peut même plus lire sa Bible. On ne peut même plus réfléchir comme normalement. On ne peut même plus prier, c'est extrêmement difficile. C'est pourquoi il faut se préparer à la souffrance. Et le rôle des responsables de l'Église est d'amener l'Église à être prête à souffrir. Ça consiste par exemple à mémoriser des psaumes, comprendre. Par exemple, comme celui-ci, avoir des vérités bibliques robustes pour traverser les temps. Pas rester sur ce qu'on a entendu à l'école du dimanche. Mais vraiment les mémoriser. Et laisser Dieu dans la méditation du travail. Et je dois vous confesser que dans notre église, nous avons une faiblesse. Et j'observe depuis plusieurs mois maintenant, et ça me préoccupe beaucoup, ça me rend très triste. Et je pense beaucoup. Et cette faiblesse, elle consiste dans le fait que beaucoup de membres, lorsqu'ils connaissent des difficultés, des souffrances ou des situations difficiles, n'en parlent pas directement aux pasteurs ni aux anciens. Bien souvent, c'est lorsqu'une situation atteint des proportions que l'on ne peut plus masquer, que nous découvrons des situations qui sont vraiment dramatiques. Des vies de couple qui sont brisées, des relations avec les enfants qui sont dissoutes, parfois une maladie grave ou handicapante. Et j'observe des personnes se retrancher sur elles-mêmes, fréquentent de moins en moins l'église, et elles souffrent seules, sans rien dire. Des personnes sont malades, et on ne prie pas pour elles, car nous ne le savons pas. Nous ne pouvons pas les entourer. Parfois, cela provoque même des quiproquos, des tensions, où les personnes sont fâchées envers les anciens et les pasteurs de ne pas leur avoir rendu visite. De ne pas avoir être venu pour prier avec elle ou un membre de leur famille. Alors que ni elle, ni la famille ne demandaient la prière, ni vie, ou même simplement exposer la situation. Mes amis, je vous le dis avec vraiment un cœur qui souffre, ces situations ne sont pas compatibles, selon moi, avec ce que nous désirons vivre dans l'Église, ne sont pas compatibles avec notre valeur d'Église qui est de vivre pour les familles. Et ça ne me semble pas être compatible non plus avec la pensée biblique, par exemple, du Romain 12. Et comprenez aussi que ça rend le travail de vos bergers, des anciens, beaucoup plus difficile, beaucoup plus douloureux. Et sachez aussi que vous pouvez dire des choses, même si c'est honteux, peut-être si c'est difficile à dire, mais par exemple, aussi. Souvent on oublie, mais par un pasteur, en fait, en statut de ministre du culte, qui est reconnu même par l'État, et qui donne le droit au secret professionnel, ce qui est dit entre nous, reste entre nous. Et dans une de ces situations, prenez rendez-vous. C'est pas ce que nous disons. Les membres de notre église que nous aimons. Mais bon. Quoi qu'il arrive, on peut toujours être déçu par les hommes, on peut être déçu même par les grands hommes de Dieu, par les anciens, par les pasteurs, par des gens de l'Église. Mais rappelons-nous que nous pouvons compter sur lui, qui est notre refuge. Nous pouvons compter sur sa bonté, sa justice. Et Jésus vient à la rencontre
de ceux qui croient. Il ne reste pas insensible à la souffrance. Pendant ce temps que l'équipe se réinstalle, je vais prier. Peut-être qu'on va juste prendre une minute pour peut-être si l'un ou l'autre a besoin de confesser quelque chose à Dieu, peut-être qu'on va simuler quelque chose. On sait pas pourquoi vous vous parlez. Peut-être que j'ai besoin de confesser tel domaine de ma vie. Peut-être que j'étais fâché avec toi, que j'étais fâché avec des membres de l'église ou avec des responsables. Déposez cela à Dieu. Je vais faire un petit temps aussi. Oui, Père. C'est vrai que la souffrance et la mort nous semblent tellement incompatibles avec ce que tu veux pour nous, ce pourquoi tu nous as créés. Et pourtant, c'est là. Et ça nous rappelle combien nous sommes à côté de la cible que tu avais mise en place pour nous. Le fait de vivre tout le temps dans ta présence, pour connaître ces tensions, ces difficultés, ces souffrances. Ça nous rappelle aussi combien tu as Dieu bon. Parce que malgré notre grâce, malgré nos cœurs qui sont bien loin de ta sainteté, tu es venu à notre rencontre. Tu es ce Dieu qui n'est pas lointain, ce Dieu qui a décidé de souffrir. Tu dis que tu as tout abandonné dans le ciel. Nous avons besoin de vivre notre vie qui est difficile, semée de souffrance, pour porter la colère de Dieu à notre place. Nous voulons en être reconnaissants. Dans les bons jours, dans les mauvais jours, nous ne voulons plus passer prières faciles. Merci d'être mort à la croix pour nous. Nous voulons vraiment être reconnaissants. Toute la violence, de tout le mépris qu'il en fait. Et je te prie, s'il te plaît, que tu puisses dans le même sens aussi changer nos cœurs pour que tu puisses nous préparer à ce c'est pour ça que ça nous demande du pardon à avoir la foi dans les frères et les sœurs, ou envers des personnes qui ont le courage de se reconnaître des fois où nous n'avons pas été là, pour trouver les uns et les autres, des fois, c'est pas bien compris. Seigneur, s'il te plaît, viens sonder nos cœurs. En nous reconnaissant qu'on n'a pas de grand monde, qui surpasse tout ce que nous pouvons imaginer, qui surpasse même nos souffrances, même si c'est difficile à concevoir. Je te remercie pour ce que tu es son grand Dieu, qui n'a pas refusé de souffrir. Amen.